Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Arts pour cheminer en ma compagnie, c'est celle des femmes artistes créatrices au cours du temps. Combien d'entre elles se sont retrouvées dans le Paris du début du XXe siècle, attirées avec leurs confrères comme des papillons par les lumières scintillantes de la capitale, qui continue encore de briller maintenant lorsque l'on évoque les noms de personnalités artistiques connues. Alors, je vous ai présenté des Françaises, mais aussi des anglo-saxonnes, des suédoises, slaves, canadiennes, américaines, chinoises même, peintres, sculptrices surtout. Mais ce n'est pas fini, d'autres attendent que je lève le rideau pour apparaître devant vos yeux, je ne doute pas éblouis, et se livrer à vous dans toute la plénitude de leurs talents, qu'elles passent ou non par Paris d'ailleurs. Alors j'ai envie d'aller voir du côté des littératrices, hein, femmes de lettres, journalistes pour la plupart, qui ont investi ce Paris du début du XXe siècle. Alors bien sûr, je vous ai parlé d'Anaïs Nin, je vous ai présenté les libraires Sylvia Beach et Adrienne Monnier, ces femmes qui ont favorisé l'émergence des créateurs, créatrices, littérateurs divers. Mais figurez-vous que bon nombre d'Américaines, d'Anglo-Saxonnes se sont installées à Paris, envoyées pour certaines en tant que journalistes, afin de représenter leur journal. Et elles ont formé une communauté bien à part, un peu distincte des autres. Alors la plupart affichaient une homosexualité assumée, revendiquée, ou même une bisexualité. Enfin, quoi qu'il en soit, sans fausse pudeur, elles ont multiplié les liaisons avec les hommes, avec les femmes. Et tout cela semblait fonctionner, j'allais dire, dans l'allégresse et la bonne humeur, jusqu'à décoiffer, voire défriser, nos culs serrés de bourgeois bien pensants, puisqu'elles ont réussi à faire scandale pour la plupart, aussi bien par leurs mœurs que par leurs écrits. Alors je citerai parmi elles la femme de lettres américaine Nathalie Clifford Barney, née en 1876, qui décida dès sa venue en France de faire salon, comme ces dames du passé, mesdames de Staël et de Sévigné, entre autres, mais sur un mode, il semblerait, un peu plus anticonformiste. Alors, qui est cette Nathalie Clifford Barney? Eh bien, figurez-vous qu'elle est la fille d'une peintre américaine nommée Alice Pike, ou Pike, P-I-K-E, qui apparaît comme une femme créative et dont bon nombre de productions se trouvent maintenant au Smithsonian American Art Museum de Washington. Et celle-ci aurait également inventé et en outre fait breveter des procédés mécaniques. Et elle écrivait aussi des pièces de théâtre, entre autres. Enfin, quoi qu'il en soit, Alice Pike viendra vivre avec ses deux filles à Paris, ce qui fait que Nathalie apprendra parfaitement le français. Alors Nathalie Barney recevra dans son salon toute une élite et bien évidemment beaucoup de femmes, dont des peintres, des écrivaines, des courtisanes même, pêle-mêle, je citerai des femmes de lettres, René Vivien, Colette, la galeriste écrivaine Gertrude Stein, la courtisane Yann de Pougy, certaines deviendront ses maîtresses, malgré ses nombreuses liaisons homme-femme, apparemment, elle entretiendra une longue liaison avec une peintre américaine nommée Romaine Brooks, mais aussi bon nombre d'artistes et d'intellectuels masculins fréquenteront son salon. Enfin, quoi qu'il en soit, son écriture fera scandale, car elle affichera un peu trop haut et fort ses penchants sexuels et ses libertés de mœurs. Alors parmi toutes ces Américaines débarquées à Paris pour raisons multiples, souvent les mêmes d'ailleurs, hein, entre autres de représenter leur journal, je citerai l'auteur journaliste Jeannette Flanner, née en 1892, correspondante à Paris du magazine The New Yorker et dont le nom de plume fut Genet, G-E-N-E-T. Et c'est également la journaliste, auteure et éditrice Margaret Caroline Anderson, née en 1886, Alors elle a milité pour les droits de la femme puisqu'elle était féministe, de surcroît lesbienne et libertaire, mais un peu comme toutes d'ailleurs. Et elle a contribué à une revue anarchiste, Mother Earth, qui se présente comme un mensuel traitant d'éducation, de littérature, d'art, d'émancipation féminine et de liberté sexuelle. Et elle est également la fondatrice, avec l'éditrice américaine Jan Epp, de la revue d'art et de littérature The Little Review, qui présente et publie des auteurs de toute nationalité. Et Jan Epp s'attachera surtout à promouvoir la littérature moderniste. Alors qu'est-ce que le modernisme ? On va dire que le modernisme est un courant qui révise totalement la manière de penser l'art et s'applique à toutes les expressions artistiques de ce début du XXe siècle. Alors le fait en est les bouleversements socio-économiques, politiques, technologiques qui ont déstabilisé toutes les bases sociales. C'est un courant qui apparaît suite à un état de crise où il semble nécessaire de bousculer les modes de pensée et appréhender le monde différemment. Alors le modernisme est multiforme, il regroupe différents mouvements littéraires et artistiques dits d'avant-garde, comme le dadaïsme, le cubisme, le surréalisme, le futurisme, l'expressionnisme, entre autres. Donc le modernisme se veut avant-gardiste, voire révolutionnaire. Et beaucoup d'artistes à cette époque se revendiqueront de ce courant moderniste, malgré les différentes manières de le manifester. Or, parmi ces artistes, l'américaine romancière et dramaturge Joanna Barnes, née en 1892, qui fera aussi partie du mouvement moderniste, rencontrera à Paris Nathalie Barnet, Gertrude Stein, sera une des amies de l'écrivain James Joyce et vivra au passage une histoire d'amour avec la sculptrice américaine Thelma Wood, dont j'ai essayé de trouver les créations sans véritable succès. Alors il est dit qu'elle sculptait des animaux, des objets divers. Alors toutes ces femmes écrivent des romans, des nouvelles, des critiques artistiques, des articles sur des sujets contemporains, des pièces de théâtre, de la poésie. Elles militent pour la plupart pour les droits de la femme dans nos sociétés occidentales. Alors l'une d'elles, nommée Mima Loy, née en 1882, alors c'est aussi une écrivaine et poétesse anglaise. Elle s'installera à Paris et se mêlera à tous les artistes locaux, mais c'est surtout pour devenir agent artistique pour les artistes comme Braque, Giacometti, Marx, Ernst, Quirico, entre autres. Alors vous rencontrez donc à Paris des Américaines, des Anglo-Saxonnes, Anglaises devenues Parisiennes, et en voici trois de plus, ou au moins en lien les unes avec les autres, puisqu'elles se connaissaient, parfois depuis de longues dates. Elles ont échangé, partagé leurs idées, si ce n'est leur intimité. Alors parmi elles, la poétesse, journaliste et critique d'art, Béatrice Hastings, née en 1879 à Londres. Elle étudiera la littérature au Queen's College Oxford. Elle écrira des nouvelles, surtout après avoir entrepris des études de littérature à Londres et collaborera au journal The New Age. Alors, bisexuelle, elle entretiendra une liaison avec le rédacteur en chef du journal Richard Orage et également avec une autre journaliste écrivaine, Catherine Mansfield. Alors avant la guerre 14-18, Béatrice Hastings sera nommée correspondante de son journal à Paris, ce qui fait qu'elle viendra aussi dans la capitale où le poète écrivain Max Jacob lui fera découvrir Montmartre et Montparnasse. Et au passage, elle entretiendra sur place une liaison tumultueuse avec Amedeo Modigliani, si bien qu'elle posera aussi pour lui de nombreuses fois. Et c'était également une militante politique. Alors elle eut une liaison amoureuse avec Catherine Mansfield, citée plus haut. Alors celle-ci, née en 1888, nommée Beauchamp, Mansfield étant le nom de sa grand-mère, était écrivaine, poétesse anglaise d'origine néo-zélandaise. Alors elle fera ses études au Queen's College de Londres. Elle s'éprendra à l'âge de 15 ans d'une camarade, Constance Baker, puis d'une autre par la suite. Bon, cela confirme bien ses penchants sexuels. Elle y rencontrera aussi Béatrice Hastings, son aînée de 9 ans, et collaborera également par la suite au journal The New Age. Entre-temps, elle deviendra la maîtresse bien d'un homme, hein, ce sont des choses qui arrivent aussi, d'un musicien nommé Garnet Trowell, qui lui la rejettera lorsqu'il apprendra qu'elle est enceinte. Alors sa grossesse n'arrivera pas à terme. Elle épousera ensuite à 21 ans un monsieur nommé George Browden et se séparera de lui pour se lier à Béatrice Hastings, ce qui ne l'empêchera pas d'épouser encore par la suite un écrivain journaliste nommé John Middleton Murray. Alors, parmi ses amants, on comptera également l'écrivain français Francis Carco. Bref, cette dame n'a pas une vie amoureuse de tout repos et il faut suivre. Alors je me rends compte d'ailleurs que je vous donne plus d'infos sur sa vie amoureuse mouvementée que sur ses productions littéraires. Alors il est dit que l'œuvre du russe Anton Tchekhov aurait été source d'inspiration et que ses nombreux voyages auraient également été source d'inspiration. Or, par la suite, ses écrits seront inspirés de ses origines nouvelle-zélandaises et en lien avec sa famille et même ses souvenirs. Or, parmi des recueils de nouvelles qui remporteront un certain succès, je citerai Félicité, créé en 1920, Prélude, Garden Party, La Maison de Poupée en 1922, Le Nid de Colombe en 1923. Et elle donnera également son nom à un prix littéraire néo-zélandais renommé, intitulé le New Zealand Post Catherine Mansfield Prize. Et c'est en Angleterre qu'elle se liera avec Virginia Woolf. Alors Virginia Woolf est née Stephen en 1882. Elle deviendra Woolf par son mariage à 30 ans avec Leonard Woolf. Ce sera un mariage de raison basé sur un respect mutuel plutôt que sur une passion amoureuse, et avec lui, elle créera une maison d'édition. Or, Virginia Woolf était femme de lettres, féministe anglaise. Elle est décrite comme une visionnaire qui flirte avec la folie. Il faut dire qu'elle fut durement éprouvée par les décès prématurés de ses parents et de sa demi-sœur Stella. En tout cas, elle sera une figure marquante de la société londonienne et membre du Bloomsbury Group, qui est un collectif d'artistes et d'intellectuels britanniques issus la plupart de l'université de Cambridge. Et la peintre Vanessa Bell et sœur de Virginia Woolf en fera également partie. Or, ses écrits deviennent célèbres. Je citerai par exemple un roman « La promenade au phare » ou un essai pamphlétaire intitulé « Une chambre à soi » qui interroge sur la place des auteurs de sexe féminin dans l'histoire de la littérature. Or, c'est un texte qui est une référence dans l'histoire du féminisme où elle aborde le fait qu'une femme ne peut avoir que des difficultés à écrire car elle dispose rarement d'un lieu à elle pour s'isoler et qu'en outre, elle est sans arrêt sollicitée par autrui pour remplir soit des tâches domestiques ou subalternes ou de service qui ne lui laissent que peu de temps pour elle et nuisent à la concentration nécessaire pour écrire. Et à ce sujet, au regard de la société et notamment des hommes, il semble tellement normal qu'une femme se dévoue à l'entourage que l'on ne puisse supposer qu'elle s'intéresse à autre chose et notamment à sa propre créativité. Et elle publiera en 1925, ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, intitulé « Madame Dalloway », qui remportera un grand succès. Et le roman tourne autour de ce personnage, une femme de la haute société anglaise, en décrivant une de ses journées. Enfin, voilà pour ces trois femmes qui se connaissent, échangent, partagent à différents niveaux en écrivant notamment des nouvelles. Alors, elles décèdent toutes les trois relativement jeunes. Catherine Mansfield de tuberculose à l'âge de 35 ans. Quant à Virginia Woolf, atteinte de dépression, elle se suicidera à 59 ans en se jetant dans une rivière. Et Béatrice Hastings se suicidera par le gaz à l'âge de 63 ans après avoir appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Les fins sont plutôt pathétiques. Et cela mérite une petite pause musicale pour que je puisse reprendre mon souffle après cette avalanche de tristesse existentielle. Or, nous allons écouter une œuvre d'une compositrice américaine née en 1867. Elle se nomme Amy Beach, elle était également pianiste. Elle manifestait un talent précoce et a étudié avec un professeur américain également compositeur et pianiste nommé Johann Ernest Perabo, mais il est dit qu'elle était surtout autodidacte. Et elle a composé des œuvres diverses, de la musique de chambre, des œuvres chorales, qui sont des pièces à chanter, des mélodies, des concertos, symphonies et même un opéra. Et donc je vous propose ici d'écouter une romance pour violon et piano, opus 23 de Amy Beach. Après cette tendre musique apte à adoucir nos mœurs, je vous propose de retrouver nos écrivaines qui sont surtout pour le moment des Américaines et des Anglo-Saxonnes. Alors celles que je vous ai présentées jusqu'à présent sont passées par Paris, mais pas toutes, et je vais vous en présenter quelques-unes dont le cursus est intéressant et aussi représentatif de cette volonté de liberté, d'indépendance et d'égalité qu'incarnent ces femmes dans nos sociétés occidentales du début du XXe siècle. Alors l'une d'elles, une moderniste, c'est la Britannique Dorothy Richardson, qui publia essais, poèmes, nouvelles, et dont la réputation d'écrivain s'établit surtout grâce à une série de romans intitulés Pilgrimage. Ces romans se revendiquent d'un courant intitulé « Le courant de conscience ». Alors, il s'agit d'un procédé de narration littéraire proche du monologue intérieur qui aurait pour particularité de suivre les pensées d'un personnage. Dit autrement, il s'agit de transmettre le point de vue d'une personne en suivant le processus de développement et le déroulement de sa pensée. Et je crois que Virginia Woolf en fut également adepte. Enfin, j'espère que j'ai bien traduit l'idée générale. Donc, je citerai encore la femme de lettres féministe anglo-irlandaise Rebecca West. Elle travaillera comme journaliste, voyagera beaucoup et sera très féconde en écriture des romans, des essais, des récits de voyage. Et elle sera nommée, entre autres, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 1949 et promue au rang de dame commandeur en 1959. Alors, je présenterai aussi ici Bérénice Abbott, née en 1898, car elle est américaine. Elle est surtout photographe, portraitiste, et également scientifique. Elle fuit une jeunesse difficile et se cherche dans les milieux artistiques new-yorkais. Elle y rencontrera Man Ray, qui l'initiera à la photographie. Elle aussi viendra s'installer un moment à Paris, où elle touchera à la peinture et à la sculpture, notamment dans les ateliers d'Antoine Bourdel et Constantin Brancusi. Par la suite, elle ouvrira son studio de photo, qui connaîtra un certain succès. Elle se passionnera pour un photographe français nommé Auguste Hadjet et participera d'ailleurs à faire connaître son œuvre. Alors après des hauts et des bas, un retour pas très réussi à New York, elle trouvera à s'engager comme professeur de photographie, ce qui lui assurera ses arrières et lui permettra de mener à bien ses projets. En ceci dit, son cursus n'est pas facile, hein, car elle fait face à pas mal de restrictions, à l'indifférence ou la malveillance jalouse de ses pairs, hein, c'est ce qui est dit, et elle décidera par la suite de se consacrer à la photographie scientifique et dans ce sens collaborera avec le Massachusetts Institute of Technology. Alors elle avait une conception personnelle de la photographie, aussi pour vous donner un aperçu de ce qu'elle pensait de son travail, voilà ce qu'elle disait en relation avec ses œuvres. Alors le rythme de la ville n'est ni celui de l'éternité, ni celui du temps qui passe, mais de l'instant qui disparaît. C'est ce qui confère à son enregistrement une valeur documentaire autant qu'artistique. Alors, parmi ces femmes qui ne se sont pas toujours arrêtées sur Paris, vous vous en êtes rendu compte, la plupart vivent chez elles en Angleterre, aux États-Unis ou dans d'autres coins du globe. Ce qu'elles cherchent, c'est surtout exister, vivre, se montrer telles qu'elles sont, quitte à changer les mentalités, aussi bien des femmes que des hommes, envers les femmes. Et elles s'affirment à grands coups de stylo ou de plume sur le papier, quitte également à donner quelques coups de biais bien sentis dans la fourmilière sociale de leur époque. Mais nous retrouverons nos écrivaines et la plume alerte la prochaine émission, car il est l'heure maintenant de nous quitter. J'espère que cette nouvelle émission sur les femmes artistes créatrices fut encore instructive pour vous et vous donnera envie de lire ce qu'elles ont écrit. Bon, je le dis aussi pour moi, car je reconnais qu'à part quelques passages, je n'ai pas souvenir de lecture plus conséquente. Merci de votre écoute de La Voix des Arts sur Radio Libre en Périgord 102.3, émission que vous pouvez réentendre en podcast ou en direct aux horaires indiqués sur le site de Radio Libre en Périgord.com. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.